Enfant, il rêvait d'être berger, mais rattrapé par ses origines champenoises, il s'oriente finalement vers l'œnologie, et c'est en Champagne qu'il fait ses premières classes dans la maison Cattier, où il participe notamment à l'explosion de la marque Armand de Brignac. En 2018, à seulement 31 ans, Émilien Boutillat succède à l'emblématique Régis Camus comme chef de cave de Piper Heidsieck ainsi que de Rare Champagne. Aujourd'hui, à 37 ans, Émilien incarne le nouveau visage d'une marque engagée, autant dans la qualité que dans le développement durable. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin.
Bonjour Émilien.
Bonjour Philippe.
Alors, comment devient-on chef de cave d'une grande maison comme Piper Heidsieck et Rare Champagne à seulement 31 ans ?
Bonne question. Je pense que c'est lié à des rencontres. Au moment où l'équipe de Piper m'a contacté, j'étais en poste au sein des Champagnes Cattier à Armand de Brignac, où j'étais très bien d'ailleurs. Mais il y a eu une vraie rencontre avec les dirigeants, Benoît, qui est aujourd'hui toujours le directeur de la maison, et puis l'équipe technique que je connaissais pour partie. Et il y a eu une vraie rencontre, un vrai partage de valeurs, une vraie vision en commun sur les enjeux d'international, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé dans différentes régions du monde, sur des régions de développement, sur le sujet de développement durable également, on s'est retrouvés sur les ambitions de Piper Heidsieck et sur les valeurs que je partageais. Donc ça a été une rencontre assez évidente finalement, et j'avais conscience aussi de la chance que j'avais en effet à 31 ans de pouvoir prendre la tête d'une maison de champagne aussi emblématique et historique que Piper Heidsieck. Donc il y a aussi un enjeu de confiance des dirigeants que je ne pourrais jamais remercier assez.
D'accord. Donc on va revenir juste à ta première grande maison, ton premier poste en fait un peu pérenne, qui était donc chez Cattier, qui a donc cette fameuse marque Armand Brignac, qui a été donc rachetée par le rappeur Jay-Z en 2014. Tu étais à cette époque, tu œuvrais déjà dans cette maison.
Oui, tout à fait. J'ai rejoint la maison Cattier tout début 2013, donc... je vinifiais à la fois les vins Cattier et les vins Armand de Brignac, donc j'ai vu l'explosion de la marque Armand de Brignac de l'intérieur, et c'était passionnant, et surtout ce que je veux mettre en avant c'est la famille Cattier, Alexandre, Jean-Jacques, son père. C'est vraiment une entreprise familiale où j'ai grandi beaucoup, puisque j'étais vraiment impliqué sur tous les aspects de la production de la vigne jusqu'à vinification, au dégorgement, vraiment l'ensemble du process, j'avais mon mot à dire, donc c'était vraiment très 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 formateur et passionnant.
C'est quoi un bon champagne pour toi ?
Il y a plusieurs composantes pour moi. Un bon champagne, bon, avant tout, c'est le goût et le plaisir qu'il peut offrir aux consommateurs. Pour moi, c'est quand même clé et fondamental. Donc la qualité du produit, et après la qualité, on peut mettre différentes choses dedans. L'important, c'est que le consommateur, les prescripteurs aussi, les sommeliers et les journalistes se régalent en dégustant nos vins. Donc pour moi, c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui m'anime au quotidien. Et puis un bon champagne, pour moi, c'est aussi un champagne qui est responsable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement durable, c'est clé pour Piper Heidsieck, et on a vraiment une approche holistique 360 degrés. Donc pour moi aujourd'hui, un bon champagne, c'est aussi un champagne qui est responsable et qui veille à son empreinte, qu'elle soit carbone, eau, énergie, et aussi sur les hommes et les femmes qui travaillent pour nos maisons, qui fournissent des raisins à nos maisons et qui vendent nos champagnes. Donc c'est vraiment un champagne qualitatif et qui est fait durablement.
Donc on rappelle que les trois marques de champagne du groupe ont reçu la certification Bicorp en septembre 2022. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en fait que la certification Bicorp ?
Alors, c'est une certification RSE, en fait, internationale. On s'est tourné vers la certification Bicorp puisqu'on voulait vraiment une certification holistique 360 degrés. Le constat qu'on fait, c'est que le vignoble champenois, parmi tant d'autres, et peut-être moins que d'autres vignobles d'ailleurs, est directement impacté par le réchauffement climatique. On fait face à de plus en plus d'extrêmes climatiques, que ce soit la grêle, du gel printanier qui est de plus en plus récurrent, des épisodes de pluvieux qui sont très intense.
Donc c'est vraiment compliqué pour faire du bio.
Oui, non seulement, puis c'est compliqué pour cultiver la vigne aussi, tout simplement. Donc on est vraiment impacté par ça. La maturité des raisins évolue, clairement. On a des raisins qui sont de plus en plus mûrs. À date, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la champagne, mais on peut se poser la question de qu'est-ce que ça donnera à l'avenir si on continue comme ça. On a besoin de préserver l'acidité, la fraîcheur dans les vins de champagne. Donc on est impacté par le réchauffement climatique. Donc on se doit de s'y adapter dans un premier temps, mais on se doit aussi de réduire notre empreinte afin de réduire notre empreinte sur le terroir et pouvoir préserver ce terroir pour les générations futures, pour les futurs vignerons, pour les futurs winemakers, les futurs œnologues et les futurs consommateurs. Donc c'est vraiment ce constat-là qui nous a poussé à engager une démarche RSE holistique. Et B Corp, ce qui nous a plu dans cette certification, c'est qu'elle était internationale, exigeante et qu'elle couvrait tous les aspects de la production. Alors la viticulture, bien sûr, on est déjà engagé sur la voie de la viticulture durable depuis 2015 avec 100% de nos vignobles certifiés et un accompagnement de nos partenaires vignerons avec l'objectif qu'ils soient tous, eux aussi, engagés dans une voie de certification d'ici à 2025. Mais ça va au-delà de ça, ça va au-delà de la viticulture durable, puisqu'aujourd'hui, on a une vraie stratégie climat afin de diminuer quasiment par deux, diviser par deux notre empreinte carbone d'ici à 2030, participer à un net zéro global mondial d'ici à 2050. Il y a des enjeux de diversité qui sont inclus dans la certification B Corp, mais également avec qui on travaille ? Comment travaillent nos fournisseurs, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs engagements sociétaux, sociaux et environnementaux, d'où viennent nos produits, nos bouteilles par exemple chez Piper et Six sont des bouteilles allégées, la bouteille la plus allégée qui existe aujourd'hui sur le marché et sont produits à moins de 15 km de la cuverie. Donc toutes ces questions, au final chaque employé dans l'entreprise pense développement durable, à chaque décision qu'on prend, on pense développement durable. C'est ça. Ce réflexe qu'on a mis en place, et c'est quelque part un changement de business model tourné vers le mieux.
Ça veut dire que vos fournisseurs, vous les accompagnez vers la transition bio, parce que j'imagine qu'ils sont pas bio aujourd'hui, c'est compliqué de faire du champagne en étant 100% bio.
Alors certains s'engagent vers le bio, mais d'une manière générale, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est d'embarquer un maximum de gens avec nous. Donc la première étape pour moi, c'est la viticulture durable en Champagne, qui est une certification qui a été créée en Champagne, donc qui s'appelle VDC, et qui couvre tous les aspects de la viticulture, donc bien sûr les intrants, mais aussi la biodiversité et aussi l'empreinte carbone. Donc c'est vraiment cette approche holistique qu'on veut mettre en avant d'abord. Avec nos partenaires vignerons qui sont d'ores et déjà certifiés VDC comme nous, on peut aller plus loin. On peut parler arrêt des herbicides par exemple, on peut parler potentiellement de bio, mais en tout cas on ne veut pas être ni dogmatique, ni se limiter à cet enjeu de la viticulture. À nouveau, notre empreinte à l'échelle d'une maison de champagne est beaucoup plus large que simplement la viticulture. Donc réduire les intrants, c'est une évidence. On va au-delà du VDC. Aujourd'hui, nos vignobles ne sont pas bio. On a des essais en bio, mais on essaie tout un tas d'autres choses aussi.
L'agroforesterie, par exemple.
Oui, bah bien sûr. Remettre en place de la biodiversité autour de nos vignobles, c'est des choses qu'on a mis en place depuis 2015. On a planté sur les 3 dernières années plus de 1000 arbres ou arbustes autour de nos vignobles. On a arrêté complètement les herbicides, donc on est vraiment sur du travail du sol et sur des couverts végétaux hivernaux. On travaille sur des couverts végétaux plus bas aussi pour, à terme aussi, essayer de limiter au maximum le travail du sol et laisser la vie dans le sol. On a mis en place des essais en bio, bien sûr. On a des essais aussi sur Voltis, qui est un cépage qui est autorisé depuis très peu de temps. Un cépage qui a été sélectionné par l'INRA de par ses résistances mildiou oïdium. Donc c'est quelque chose qu'on veut essayer main dans la main avec le CIVC à plus grande échelle, puisqu'il y a déjà des essais qui ont été faits en Champagne et sur des petites parcelles. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des unités de vinification qui soient représentatives de ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est toutes ces pistes qu'on explore. On est aussi l'une des premières maisons de champagne à avoir investi dans la société Vitibot, qui est une start-up champenoise qui produit Bacchus, qui est un enjambeur autonome, électrique, qui nous permet de travailler les sols. L'enjeu aussi, c'est de libérer du temps aux vignerons. Le retour des pratiques un petit peu historiques, on va dire, et l'arrêt ou la limitation des produits phytosanitaires pousse le vigneron à passer plus de temps dans les vignes, donc on a besoin de lui libérer du temps aussi. Et cette solution, Bacchus, peut être aussi une solution pour libérer du temps, travailler les sols de manière durable et en même temps libérer du temps en vigneron.
J'imagine qu'une part importante de la production est exportée. Comment vous faites pour réduire l'empreinte carbone à l'export ?
Alors, ouais, l'empreinte carbone, alors il y a plusieurs composantes qui sont clés. C'est la bouteille en verre. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on est déjà sur la bouteille allégée chez Piper, mais on veut aller au-delà. On veut aller au-delà, mais c'est un sujet interprofessionnel, c'est un sujet qui est lié au comité champagne, donc on a vraiment envie de participer au sein du comité champagne à cette réflexion, ça va prendre des années. L'enjeu de l'exportation, oui, c'est important. Pour Piper, on exporte plus de 80% de nos volumes, plus de 85% même, je crois, aujourd'hui. On a vocation à continuer, on a envie de satisfaire nos clients qui sont dans le monde entier, et ce depuis toujours, ça fait plus de 200 ans qu'on exporte nos vins, donc ça fait partie de notre histoire, notre ADN.
Mais est-ce que vous allez le faire, par exemple, à travers des sociétés comme Neoline versus l'avion ?
Alors, il y en a plusieurs, il y a Neoline, il y a TOWT, Grain de Sel, donc on exporte déjà, le groupe exporte déjà des champagnes aux États-Unis, pas par des cargos voiliers, puisqu'ils ne sont pas encore en mer, mais par des voiliers, tout simplement. Donc Grain de Sel a déjà expédié pas mal de bouteilles pour nous, aux États-Unis, c'est des sujets en effet sur lesquels on travaille et probablement qu'à l'avenir ça sera une des pistes. Sur les cargos, il y a d'autres enjeux aussi, l'utilisation de conteneurs réfrigérés, reefers, il y a d'autres solutions qui existent avec des couvertures. Donc il y a plein de leviers, et on regarde à chacun de ces leviers, puisque réduire de 50% l'empreinte carbone, c'est loin d'être neutre.
C'est clair.
Par exemple, il y a un autre sujet qui est important, c'est le froid. L'industrie, on va dire, du vin et du champagne est très consommatrice de froid pour les vinifications, pour le passage au froid potentiellement. Donc on consomme de l'énergie, on consomme du froid. Et là, on investit massivement sur notre site de production pour renouveler complètement le froid et passer sur un système de froid zéro carbone avec le retour de l'ammoniac qui est beaucoup plus maîtrisé aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques temps.
D'accord. Hier lors d'une conférence ici à Wine Paris, tu as évoqué le fait que les succès du champagne sont essentiellement liés à la réussite d'un collectif.
Oui, c'est la chance qu'on a pour moi en champagne. On vend Piper Etzig, mais avant de vendre Piper Etzig, on vend du champagne. Et cette puissance du nom champagne, de l'appellation champagne, qui est liée à un terroir, qui est liée à un style de vin, on se doit de la défendre. C'est ce qu'on pense en tout cas chez Piper Etzig. Et l'une des forces de la champagne, c'est aussi ce collectif et cette discussion constante entre les vignerons d'un côté, les négoces et les coopératives autour de la table pour construire ensemble la champagne de demain. Et ça existe depuis des années maintenant et c'est vraiment notre force, puisque tout ce qu'on vient d'évoquer, les enjeux de réchauffement climatique, de développement durable, finalement ça n'a pas de sens si on est les seuls à remuer ces terres pour être vertueux à notre niveau. C'est uniquement au sein de l'appellation et en embarquant tout le monde qu'on aura un réel impact. Donc le CIVC est très moteur sur ces thématiques viticulture durable, mais aujourd'hui aussi thématiques climat. Donc c'est dans ce collectif qu'on s'inscrit et c'est dans ce collectif qu'on est directement impliqué et acteur.
Tu parlais hier aussi de ton équipe avec des personnes qui ont plus de 30 ans d'expérience, ça compte beaucoup j'imagine.
Ouais, le collectif il est clé pour moi à tous les niveaux, donc à l'échelle de l'interprofession, mais à l'échelle de l'entreprise aussi. Et dans l'entreprise, il y a une équipe en particulier qui est clé pour la pérennité du style d'une maison, c'est le comité de dégustation, le comité œnologique. Je crois beaucoup à cette équipe. Je n'ai pas la prétention de porter sur mes épaules le style Piper à moi tout seul. Donc on est 8 autour de la table, 4 hommes, 4 femmes, avec toutes les générations qui sont représentées. La plus jeune vient d'avoir 30 ans et le plus âgé, il a 62 ans, je crois. D'accord. Donc on a vraiment toutes les générations qui sont représentées, diverses expériences. Comme je l'ai dit, moi j'ai travaillé beaucoup à l'international, donc j'apporte cette casquette-là. Et puis il y a Myriam, par exemple, qui est responsable qualité chez nous et œnologue et membre du comité depuis plus de 30 ans. Donc en effet, elle connaît sur le bout des ongles le style de la maison, l'historique de la maison, l'historique des brutes, l'historique des millésimes. Donc c'est un puits de science et une mémoire de la maison sur laquelle il est évident que je m'appuie.
D'accord. Alors Piper Etzig, Charles Etzig, Rare Champagne font partie d'un groupe un peu plus vaste qui s'appelle Le Pays, qui est également propriétaire de Château Laverie dans le Luberon, également de Biondi Santi en Toscane. Est-ce que, comme tu l'as évoqué hier, il y a des synergies à l'intérieur du groupe? Tu disais hier que vous organisez des rencontres intra-groupes une fois par an.
Oui, tout à fait. C'est un groupe qui est assez jeune. Hein. Christopher Descours a pris la tête des maisons de champagne en 2011. Et puis les acquisitions dont tu parles sont encore plus récentes, avec Isole Olena, qui est la dernière acquisition en Italie, Biondi Santi quelques années avant. Donc c'est un groupe qui est encore assez jeune, mais très dynamique. Et assez vite, en fait, on s'est vu ici sur Wine Paris, où on s'est vu puisque les équipes sont venues en Champagne. Et on s'est assez vite rendu compte que même si on faisait des vins qui étaient diamétralement opposés, on était parfois confrontés aux mêmes enjeux, à nouveau sur le réchauffement climatique, mais aussi tout simplement sur les enjeux de viticulture, de vinification ou de dégustation également. Donc assez naturellement, on s'est dit qu'on avait des choses à partager et on a commencé à mettre ça en place donc il y a 2 ans avec des rencontres. On est descendu dans le Luberon et on a vu l'équipe de Tardieu-Laurent et de la Verrerie. Et puis l'an dernier, c'est les Californiens, les Italiens et les Français qui sont venus en Champagne. Et si tout va bien, cette année, on ira en Toscane.
Vous avez récemment lancé Blanc de Noir de la gamme essentielle. Ça, c'était en juillet dernier, c'est ça?
Alors, on a fait le reveal en juin. Les bouteilles sont arrivées en marché en septembre. Il y avait un petit preview avant l'été et les bouteilles étaient en marché en septembre.
D'accord. Aujourd'hui, quels sont les projets à court ou moyen terme si on peut en parler, bien sûr, de la maison.
Alors, c'est quand même la grosse actualité, en effet, c'est toujours le Blanc de Noir, qui est une nouvelle cuvée qui a été lancée l'an dernier et qui, pour moi, est le symbole un peu de Piper Heidsieck aujourd'hui. Comme tu l'as dit, Blanc de Noir s'inscrit dans la collection Essentielle, qui est une collection qui est dédiée à la gastronomie.
Qui a été créée en 2012, hein, c'est ça ?
Ouais, la toute première cuvée, c'était Essentielle Extra Brut, lancée en 2012, tout à fait.
Après, il y a eu Blanc de Blanc en 2018.
Blanc de Blanc en 2018, t'es bien renseigné, et Blanc de Noir en 2023, du coup. Donc, cette collection, c'est une collection qui est destinée aux champagne lovers, à la gastronomie, au bar à vin, au caviste, etc. Donc, on est vraiment sur une offre avec un vieillissement plus long. Un dosage extra brut en lien avec ce vieillissement prolongé, on a besoin de moins de sucre pour trouver l'équilibre. Donc on a plus de minéralité, on va mettre vraiment en avant cette complexité, cette minéralité. Et puis aussi on retrouve toutes les informations du vin sur l'étiquette et la contre-étiquette. À nouveau, on s'adresse soit à des sommeliers, soit à des amoureux du vin. Donc ils ont envie de connaître tout ce qu'il y a derrière l'étiquette et ce qu'il y a dans le vin. Donc on partage toutes ces informations sur la bouteille.
Donc ça, c'est un petit peu le nouveau visage de Piper Heidsieck pour correspondre un peu aux nouvelles habitudes de consommation.
Ouais, bah en fait on a la gamme... incontournable, je dirais, avec le brut sans année, le rosé, le millésime aussi, qui sont des grands classiques dans les maisons de champagne. Et puis, on a cette collection qui est vraiment dédiée à la gastronomie et qui cartonne en France, qui cartonne en Italie, au Japon, je dirais dans tous les pays qui ont vraiment cette culture vin, précision. Ça marche très, très bien. Et Blanc de Noir, c'est aussi, au-delà de cette collection essentielle, le symbole de qui on est aujourd'hui. On a toujours été connecté au Pinot Noir dans le style de nos vins. Pour autant, le style Piper Heidsieck, il est vraiment sur le côté croquant du fruit, la fraîcheur, l'élégance. Donc on a voulu aller explorer ça. Comment trouver dans le Pinot Noir et le Meunier, puisqu'il y a un assemblage des deux dans le Blanc de Noir, cette élégance, cette fraîcheur, cette tension, et exprimer finalement un Blanc de Noir avec un style résolument moderne. Parfois, les Blancs de Noir peuvent être très puissants, très structurés, parfois un peu lourds. Là, on va prendre complètement le contre-pied avec la concentration du Pinot Noir qui est bien présente, le fruit, mais derrière une élégance et une finesse qui est assez surprenante pour un Blanc de Noir. Et c'est le chemin sur lequel on est avec Piper Heidsieck et c'est là où on veut aller. Donc clairement un hommage à notre histoire, d'où on vient, le style de la maison depuis toujours. Et aussi...
C'est l'une des plus vieilles de Champagne, il faut le rappeler quand même.
Tout à fait.
En 1785, ouais. Par un fils de pasteur allemand.
Tout à fait. Qui n'était pas venu faire du champagne historiquement en Champagne, qui était drapier. Mais il a eu la chance de tomber amoureux d'une belle champenoise. Alors il est resté.
Très bien. Tu as reçu en 2021 le prix Sparkling Winemaker. Enfin, tu étais... le vigneron en sparkling de l'année. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? À part évidemment le plaisir de recevoir ce prix, qu'est-ce que ça t'a apporté comme...
C'est une vraie fierté, puisque donc, c'est l'International Wine Challenge à Londres qui décerne ce prix tous les ans. C'est un prix qui est décerné en fonction de dégustation à l'aveugle. Alors déjà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque c'est ce qu'on a mis en place chez Piper. Tous les vins qu'on déguste, les vins clairs, on les déguste à l'aveugle pour vraiment être objectif et choisir l'orientation d'un vin vraiment avec son style et sa qualité. Pareil pour les dosages, on travaille pareil. Donc recevoir ce prix sur une dégustation à l'aveugle avec beaucoup de vins de champagne qui sont représentés, si ce n'est tous, c'est une vraie fierté. Et c'est une fierté que j'ai envie de dédier et de partager surtout avec l'ensemble de l'équipe. Puisqu'à nouveau c'est un travail d'équipe en fait, je peux pas avoir ce prix il m'est destiné directement et pour moi il célèbre la qualité des vins de la maison et le travail de l'ensemble des équipes au sein du comité de dégustation bien sûr mais dès la vigne en fait, puisqu'il n'y a pas de grand vin sans grand raisin et les raisins sont élaborés par nos équipes dans nos vignes maison et aussi par l'ensemble de nos partenaires vignerons, donc c'est toute l'équipe qui mérite ce prix.
J'ai lu que quand tu étais enfant, tu voulais être berger, c'est vrai ?
Tout à fait. Alors ça, je ne l'ai pas dit à tout le monde, donc tu t'es vraiment bien renseigné. Oui, c'est mon rêve. Chaque enfant a ses rêves, et moi, mon rêve, c'était d'être berger. Mais j'ai la chance de l'avoir en partie réalisé, ce rêve, puisque bon, j'adore toujours la montagne et passer mes étés à faire de la randonnée ou des treks en montagne. Et lors de ma formation à l'Agro-Montpellier, le premier stage de première année, je savais que j'allais aller dans le monde du vin. Je me suis dit, bon, le premier stage, je ne vais pas aller dans le monde du vin. De toute façon, je vais faire ma vie dans le vin. Donc, tu voulais faire quoi quand tu étais enfant ? Tu voulais être berger ? Eh ben, va t'occuper un peu de brebis. Donc, je suis allé en Savoie.
Très bien.
J'ai travaillé tout un été en Savoie avec des bergers. Donc, Donc voilà, j'ai quelque part réalisé ce rêve et c'est toujours un univers qui me fascine et que j'adore.
J'ai lu aussi qu'à tes heures perdues, tu étais comédien dans une troupe de théâtre.
Oui, tout à fait. Ça, c'est ma deuxième vie quelque part, ma deuxième passion, parce que ça me prend aussi beaucoup de temps. Je fais de l'improvisation théâtrale dans une troupe qui s'appelle le Mitch à Reims. Une troupe composée pour moitié de pros, hein, qui sont intermittents et comédiens. Et puis, on est une autre bande à être double actif, je dirais. Donc moi, je suis œnologue le jour et comédien et improvisateur la nuit. Ça participe à mon équilibre et il y a beaucoup de parallèles, mine de rien.
C'est la question que j'allais te poser. Quel est le parallèle entre justement le fait d'être comédien et le fait d'élever ces vins dans les caves
de... Il y a plusieurs notions qui se répondent. La notion de créativité. Quand on rentre sur scène, sur une impro, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il va falloir faire appel à ton imaginaire, à ta créativité. Et quand je travaille sur les assemblages, mine de rien, il y a aussi cette notion d'intuition, d'imaginer comment tel et tel vin pourrait s'associer et créer quelque chose ensemble qui est meilleur que les deux individualités, on va dire.
Ça, c'est plutôt pour des lancements de produits, puisque en fait... Dans le champagne, il y a quand même on essaie de reproduire un profil d'année après année.
Oui, bien sûr, mais pour reproduire ce style, il faut trouver des synergies entre des vins qui sont parfois diamétralement opposés que les vins que tu avais l'année d'avant. Donc tu as quand même besoin de retrouver les connexions qui te permettent de maintenir ce style. Au-delà de ça, il y a cette notion d'équipe. Il n'y a pas de bonnes impros sans une équipe qui s'écoute, qui construit ensemble et qui avance ensemble. C'est exactement la même philosophie pour nous, sur les notions de durabilité, mais sur aussi le comité œnologique, où on a un fonctionnement ultra démocratique, où chaque voix compte. Je n'ai pas plus de poids que mes collègues, et c'est vraiment ensemble qu'on construit les vins. Donc il y a ces deux parallèles-là. Et puis au-delà de ça, ça me permet aussi d'avoir une certaine aisance, mine de rien, quand je suis au contact de toi, d'autres journalistes, de clients. Et donc ça m'aide aussi au quotidien, sans que je me rende plus trop compte d'ailleurs.
Avant-dernière question, est-ce que dans l'industrie du champagne, des vins spiritueux, ou même dans d'autres secteurs, tu as un modèle, une femme ou un homme qui t'a vraiment inspiré dans ta vie professionnelle ou personnelle ?
J'ai pas un modèle, j'ai plutôt tendance à grappiller à droite, à gauche des inspirations ou des façons de faire. Et dans mon parcours, dans mes expériences, comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans différents pays. Il y a quand même une rencontre qui a été assez singulière, c'est en Californie. Donc, je travaillais pour Peter Michael Winery. L'œnologue là-bas à l'époque, c'est Nicolas Morlet, qui est français, champenois d'ailleurs. Et donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés. En viticulture, en œnologie, c'était très très précis. Et en plus, sur la dégustation, en fait, il avait un diplôme de nez en parfumerie. Et j'ai appris énormément sur la dégustation et sur le pouvoir de la dégustation. Et c'est un outil que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Et c'est vrai que la rencontre et les échanges que j'ai pu avoir avec Nicolas Morlet ont été assez fondamentales pour moi au début de ma carrière, je dirais. Et puis comme je l'ai dit, et par ailleurs, après, j'aime bien trouver des inspirations avec des rencontres à droite, à gauche. Ça peut être dans le monde du théâtre aussi d'ailleurs, avec mes amis et collègues que je peux croiser en Champagne ou ailleurs. Donc j'aime bien grappiller un petit peu partout.
Très bien. On va finir par une question un petit peu décalée. T'es plutôt Piper ou t'es plutôt Heidsieck ?
Ah, c'est une bonne question. Ça me l'a jamais fait celle-ci. Je pense que je suis plutôt Piper. Je sais pas pourquoi. Donc Piper pour Henri-Guillaume Piper et Heidsieck pour le fondateur Florent-Louis Heidsieck. Donc Henri-Guillaume Piper est arrivé un peu plus tard dans l'histoire de la maison.
C'était lui le commerçant en fait.
Oui, et puis il s'est surtout marié avec la veuve Heidsieck, qui était donc la femme de Christian Heidsieck qui est décédée. Et après quelques années de veuvage, bien sûr, ils ont démarré une histoire tous les deux et c'est comme ça qu'est née la maison. Et Henri-Guillaume Piper, donc, il y avait cette vision très très jeune, très dynamique. Et puis aujourd'hui, mine de rien aussi, on parle de la maison Piper Heidsieck, mais le côté Piper, c'est aussi le côté à nouveau vibrant, croquant, dynamique, vertical, qu'on retrouve dans les vins et qu'on retrouve dans l'énergie et tout ce qu'on veut diffuser autour de la marque. Donc oui, je choisirais Piper. Mais bon, les deux noms sont liés, les deux notions sont liées. Piper, pour moi, c'est vraiment la modernité et Heidsieck, c'est l'histoire, la tradition. Et c'est sur ces deux jambes qu'on a envie d'avancer pour l'avenir.
Très bien, merci Emilien, merci d'être venu.
Merci Philippe et puis une prochaine fois.
Très bonne continuation, à bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous pouvez prolonger cette expérience sur vindivin.fr. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à Vindivin sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur les plateformes. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain épisode de Vin Divin. En attendant, portez-vous bien.